Et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique numéro 86, sixième émission de la saison 8 sur Divergence FM 93.9 et sur Radio Escapade 103.3, 104.1, également sur divergence-fm.org pour ceux qui nous écoutent de Belgique, du Québec ou d'ailleurs dans le monde. Une divergence numérique avec au sommaire la traditionnelle maintenant revue de presse de l'April avec Emmanuel Charpentier et Luc Fievier qu'on peut retrouver maintenant, et c'est une très très bonne initiative, sur le site de dogmazic.net, revue de presse de l'April. Nous aurons aussi une capsule de nos amis de la Voix du Libre de CKIA à Québec, une radio associative non commerciale que l'on peut écouter sur le 88.3 et qui nous parlera des standards du web. Nous aurons aussi en deuxième partie, on parlera accessibilité et logiciel libre avec Harmonie Altinier, Christelle Thomas, Sébastien Delorme. Et en fait, c'est un extrait de l'émission Symbiose que l'on retrouve sur les ondes d'une radio aussi associative non commercial, j'ai nommé Radio Libertaire à Paris sur le 89.4 FM. Et puis on terminera l'émission avec l'agenda du libre, mais pour l'instant ce sont les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Nouvelles du front avec la revue de presse de l'April.
Revue de presse de l'April, semaine 44, c'est-à-dire la première semaine de novembre de l'année
2010.
Merci. Donc, au sommaire, donc, à quand le Kinect hacké ? Mozilla à la sauce open source.
Oui, vive l'open source, mais ce serait tellement mieux avec du libre.
L'invasion des androïdes, Marseille joue la prudence. Les gendarmes, en revanche, eux, jouent l'imprudence, nécessairement. C'est l'hiver, donc on observe des migrations de geeks du côté de LibreOffice. VLC et l'iPhone et ce genre de choses, donc les dessous du clash, on en parlait la semaine dernière, on a un petit peu plus de nouvelles là-dessus. Dernier sujet de ce sommaire, la Linux Foundation embarque l'embarqué. Alors on commence par la fin. Embarqué, la Linux Foundation avale le Consumer Electronics Linux Forum. Donc c'est un article du Journal du Net, écrit par la rédaction.
Oui, en gros, ils ont récupéré un truc de presse qui explique tout simplement qu'il y a des grosses boîtes qui se sont retrouvées à bosser sur de l'embarqué et que la Linux Foundation, bah, ils font aussi de l'embarqué, énormément d'embarqué. La Linux Foundation, pour mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont eux qui emploient Linus Torvald, donc le créateur de Linux. Et en l'occurrence, il y a déjà de très grosses boîtes qui sont derrière et qui les financent. Ils s'intègrent simplement avec d'autres grosses boîtes qui les financent encore, de type Sony, Panasonic, Samsung. Et ils vont pouvoir travailler sur des petits matériels, des téléphones portables, de l'Android, comme on va en parler un petit peu plus tard.
Donc des grosses boîtes qui font du petit matériel.
Sur le site de Numérama, un article qui parle de ce qu'on a déjà parlé la semaine dernière, VLC pour iOS crée des tensions dans la communauté open source. Article de Guillaume Champeau qui revient sur le fait que VLC, magnifique lecteur de vidéos et de flash, qui a été porté pour l'App Store il n'y a pas très longtemps par la communauté VLC, bah ce logiciel, il a une licence tout ce qu'il y a de libre, licence GPL version 2, mais il semblerait qu'un des développeurs de VLC rue dans les brancards et pense que c'est incompatible avec l'App Store.
Donc oui, la semaine dernière, on avait dit que la présence de VLC dans l'App Store était compromise à cause de la licence qui n'était pas compatible. On en sait un petit peu plus sur le dessous des cartes, donc dans la communauté VLC, la plupart des gens étaient plutôt favorables à ce portage, il y a une société, membre de la communauté, qui s'en était notamment chargée, et ce contributeur voit ça d'un mauvais œil, hein. L'App Store, l'iPhone, tout ça sont des plateformes fermées, et dit que tout ça n'est pas compatible avec la licence.
Il y a une zone de gris qui demande à être clarifiée. En tout cas, les gens qui sont responsables de la communauté, eux, pensent que ça va rester en place. Effectivement, Apple avait modifié sa licence d'utilisation de l'App Store suite à un problème avec un jeu qui s'appelait GNUGO, qui était en GPL. Et là, clairement, à cette époque, les licences étaient contradictoires.
Article du mag IT, donc l'informatique pour et par les pros. Donc les contributeurs d'OpenOffice.org adoptent le parti pris de LibreOffice, donc un article de Cyril Chausson. Donc c'est bientôt l'hiver, hein. Il y a des migrations qui se préparent, donc une trentaine de contributeurs qui quittent OpenOffice pour aller à LibreOffice.
Oui, donc ça fait quand même du monde. Là-dessus, on ne sait pas exactement combien il y en a qui sont simplement des développeurs, mais même s'ils ne le sont pas tous, ça en fait pas mal. Alors par ailleurs, on en avait entendu parler d'autres personnes, des gens qui travaillent à LibreOffice. Au final, les vrais développeurs qui sont derrière OpenOffice, il y en a quoi ? Il y en a 35-40, ils bossent essentiellement pour Oracle, et si eux bougent en masse, là ça va faire du mal. Mais là, c'est déjà un bon début, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont en train de se retourner contre Oracle, et qui en ont assez tout simplement.
Alors se retourner contre Oracle, pas nécessairement, enfin en tout cas, de ce qu'on avait entendu des gens de LibreOffice, c'était aussi pour l'envie de mener le projet correctement, et que déjà à l'époque de Sun, il y avait des tensions, où la communauté n'était pas bien organisée et ne pouvait pas travailler correctement, et que Sun avait traîné des pieds pour mettre en place ces choses-là, et que ce mouvement n'était pas particulièrement, en tout cas qu'Oracle n'était pas particulièrement visé, puisqu'ils ont été invités à rejoindre le mouvement, mais en tout cas ils ont largement refusé.
Oui, c'est vrai, on pourrait peut-être considérer que c'est Oracle qui s'est retourné contre eux, qui les a virés comme des malpropres de sa communauté. Sachant qu'à côté de ça, Oracle relève les prix et les tarifs de support de MySQL. Ça doit passer de $600 à $2000, donc quand même un prix qui augmente pas mal.
Par an, hein.
Par an, il me semble bien, tout à fait. Et à côté, en plus, l'ancien PDG de Sun, qui a donc été racheté par Oracle il y a quelques mois, et qui a fait toute une interview sur le fait que Java et Oracle, c'était une étrange... Enfin, c'était une histoire qui tourne, mais que vraisemblablement, Java, il allait avoir un fork pour le conserver en format libre, un vrai libre, avec une communauté derrière. Si c'est le cas, ça va être un gros changement, on en reparlera. Le Mag IT, encore une fois, donc un article sur Marseille, la DSI mise sur Windows par prudence, donc de Valérie Marchive, et donc qui revient sur le sujet dont on avait déjà parlé la semaine dernière, le fait que la DSI de Marseille, qui avait décidé à l'origine de passer en logiciel libre toute son infrastructure de machines, tout son parc, donc quelque chose d'assez considérable, la migration allait se passer bien, il y avait tous les voyants étaient au vert, mais avec l'arrivée du nouveau directeur du service informatique, celui-ci a tout arrêté, il a tout bloqué, et au nom d'une certaine prudence, il a dit non, maintenant on va rationaliser, et on va tout mettre sous Windows 7.
Précise quand même qu'ils utilisent OpenOffice et qu'ils n'ont rien contre le libre particulièrement et ce genre de choses, mais qu'en tout cas c'est plus prudent d'avoir une solution éprouvée et que tout soit à l'identique partout, et que bon, il y a absolument aucune autre raison derrière. Question de prudence avant tout, donc on se demande un petit peu, on s'en met un petit peu en cause peut-être les compétences de son prédécesseur, je sais pas.
Alors, par ailleurs, il est super mécontent du fait que l'April, elle, a évoqué des problèmes d'appel d'offres, de marché public, le fait que le logiciel libre avait été acté pour passer sur les infrastructures de Marseille. Il est vraiment très mécontent et il a parlé de faire appel aux tribunaux. On va voir.
Il a dit qu'il a mis son service juridique dans la boucle, ce qui est différent. Mais bon, on verra bien effectivement. Article de PC Impact, la gendarmerie nationale migre tous ses PC vers Ubuntu. Un article de Vincent Herman. Donc voilà, autant, comment dire, la mairie de Marseille est prudente et refuse de passer sous GNU Linux, autant les gendarmes sont des irresponsables totalement imprudents qui font n'importe quoi puisqu'ils passent sous Ubuntu.
Et en l'occurrence, ils vont passer 85 000 ordinateurs, une paille. Donc ils ont choisi, ça fait déjà quelques années qu'ils passent à du logiciel libre, ils avaient passé leur messagerie interne, ils avaient passé tous les navigateurs, la bureautique sous du logiciel libre. Là c'est une évolution assez logique qui va leur permettre d'économiser 2 millions d'euros par an, donc quelque chose d'assez considérable pour eux. Et ils ont payé quand même, malgré tout, c'est du logiciel libre, ils ont payé pour du support auprès de Canonical.
Alors dans les fonctions qui sont mises en place et dans l'infrastructure, les postes sont mis tous en réseau les uns avec les autres, et une bonne partie des économies qu'ils font vient du fait que les postes font usage de serveurs également et leur permettent donc d'échanger les données et d'accéder à son bureau depuis n'importe quel poste. Et donc ils économisent 7000 serveurs, ce qui fait quand même un paquet de matériel.
Et puis ça fait plaisir, très plaisir aux gendarmes, des gens donc très intelligents qui vont pouvoir avoir chacun leur poste personnalisé de là où ils travailleront à tout moment. Donc bravo, c'est un bon choix, on espère que d'autres vont suivre l'exemple. un article de Gnet, GlobalNet en l'occurrence, un article qui vient d'un site africain, qui parle d'Android, seul maître à bord pour les smartphones, écrit par Amin Kochlef, ou Kochlef, je ne sais pas exactement, il faut voir, et qui explique que Android, le système d'exploitation pour téléphone portable, dont on a parlé suite à des problématiques de brevets logiciels et d'attaques entre grosses boîtes de type Google et Oracle, eh bien ce système d'exploitation couvre 44% de parts de marché des téléphones intelligents, on va dire, qui circulent aux États-Unis, ce qui est une part de marché assez considérable. En l'occurrence, c'est le double de celle de l'iPhone, qui pourtant est un succès phénoménal dont on parle encore. Et il faut avouer ce qui est, l'iPhone est magnifique, l'iPhone est très bien. C'est juste que là, eh bien, grâce à son ouverture, le fait que c'est un logiciel libre et instamment libre qui peut être porté, modifié, mis à jour par d'autres que les créateurs des initiaux, eh bien, il y a plein de constructeurs de matériel qui portent Android sur leur matériel et qui permettent de tout simplement avoir un très gros succès derrière ça.
Alors derrière, c'est un noyau Linux, hein, pur et dur, et donc du logiciel libre. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a encore, on va dans la, notamment dans la presse générale et grand public, etc., plein de choses sur l'iPhone comme étant le nec plus ultra de la haute technologie, ce genre de choses. C'est aujourd'hui déjà une solution minoritaire. Il y a plein d'autres choses qui se préparent. Et donc voilà, donc l'avenir est intéressant de ce côté-là et assez radieux. Un article de l'Atelier, donc c'est un site qui appartient à BNP Paribas Group, donc qui s'intitule Le modèle Mozilla, un modèle pour les entreprises. Donc un article de Klaus-Peter Speidel,
un mec qui a l'air des plus intéressants, enseignant à Sciences Po, qui a l'air de savoir ce dont il parle.
Une approche très open source de Mozilla, donc constate que chez Mozilla, il y a quand même un paquet de développeurs bénévoles ou quasiment bénévoles. Et donc c'est merveilleux, il y a des gens qui viennent travailler gratuitement. Comment est-ce possible? Voilà ce qu'il explique dans cet article. Comment réussir à mobiliser une communauté de gens qui viendront bosser gratuitement?
Alors, moi, je pense que t'es tout à fait négatif et que c'est un tort. Il faut de tout le monde dans une communauté, y compris des gens qui pensent pas du tout éthique, esprit de partage, ces choses-là, qui sont là d'un point de vue assez utilitariste, voire même égoïste. C'est pas forcément un mal. Après tout, ils vont contribuer. Ou en tout cas, c'est ce que j'espère.
Bon, en tout cas, l'article est pas trop mal fait. Il dit pas de grosses bêtises parce qu'on a quand même pu voir un certain nombre de cas assez naïfs. Pop-up, Internet 2.0, les gens vont venir et nous inonder de leur travail gratos. Ça marche pas comme ça. En tout cas, l'article a cet avantage d'expliquer pourquoi et comment ça fonctionne.
Oui, parce que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont frottées sur ces problématiques, qui ont espéré, on leur a fait briller des espoirs mirifiques de développement gratuit, et qui se sont cassés la gueule tout simplement. Les communautés ne sont pas montées, les gens ne suivent pas, leurs projets finalement sont remballés, retournent chez eux. Là, en l'occurrence, on explique, il faut une communauté, il faut des gens motivés, il faut des choses vraiment ouvertes, avec du partage, de l'égalité entre les personnes. C'est ça qui fournit du libre et de la construction autour du libre.
Le sentiment de participer à un bien commun. Alors l'idéal étant que ce soit plus qu'un sentiment et qu'on participe effectivement à un bien commun. Donc, article de Gizmodo, le Kinect de Microsoft, hacké déjà, point d'interrogation, point d'exclamation. Donc un article de Fred. Donc le Kinect, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de petite barre avec des caméras qu'on place au-dessus de sa télé et qui sert d'interface de jeu. Un petit peu comme la manette de la Wii, sauf que là il n'y a pas de manette. On est directement repéré par les caméras, etc. Un peu dans le mode de l'iToy, qui est un petit peu moins connu que la manette de la Wii, sauf que c'est beaucoup beaucoup plus sophistiqué. Un beau produit, hein, faut comme l'avouer, derrière pas mal de développement, des choses intéressantes. Et là, nouvelle un peu étrange.
Oui, c'est une petite boîte Adafruit qui a proposé, pour pouvoir réutiliser ce matériel dans d'autres circonstances que la Xbox de Microsoft, ils ont demandé à la communauté que quelqu'un fasse un driver libre, et ils ont promis une prime de $1000 pour cela.
Donc ça a dû faire grincer des dents.
Ça fait hurler Microsoft, qui ont invoqué avocat, brevet logiciel, infraction au code de la propriété intellectuelle, la totale. Adafruit, ils ont monté leur prime à $2000. Donc là-dessus, rebelote. Microsoft ont réhurlé, ils ont commencé à faire des gros yeux. Et Adafruit, ils ont dit, surtout, ne nous forcez pas à monter à $3000, ce serait moche. Là-dessus, chose intéressante, en quelques jours à peine, eh bien, il y a un driver qui est apparu dimanche dans la journée. Il y a un petit gars qui est arrivé et qui a proposé un logiciel libre qui permettait d'utiliser le Kinect sur d'autres systèmes que les systèmes de Microsoft.
Alors, driver partiel, hein, toutes les fonctions ne fonctionnent pas encore, mais ça fait qu'une semaine.
Et ça, c'est déjà pas mal du tout. Faut avouer, il y a des gens qui arrivent à faire des trucs en libre et qui sont vraiment très doués. À côté de ça, je te ferai remarquer, et c'est important, Microsoft, ça peut être des gens bien, ils font du libre aussi, bizarrement. La semaine dernière, on avait parlé d'Iron Python, Iron Ruby, qui sont des langages qui ont été faits à l'origine par Microsoft, qui ont été relâchés en licence Apache 2. En l'occurrence, c'est surtout qu'ils ont abandonné le développement, hein, et ils l'ont donné à la communauté. C'est un mal pour un bien. Mais là, il s'agit du langage F-Sharp, ou F-Dièse, qui est un langage fonctionnel fait par Microsoft. Très très bien, dans des gens, des chercheurs, des laboratoires, des choses intéressantes. Ils continuent le développement, mais ils le mettent malgré tout en licence Apache 2. Donc bravo, il faut apprécier de temps en temps. Il y a du bon, il y a du mauvais à Microsoft.
Oui, parce que tu dis qu'ils font des tas de choses fabuleuses, mais là, ils jouent un peu les parrains de la mafia avec Asus et Acer.
Oui, ça fait mal au cœur. En l'occurrence, Asus et Acer, c'est des fabricants de matériel. Et c'est des fabricants de matériel qui embêtent Microsoft parce qu'ils se mettent à faire du logiciel libre, de l'Android par exemple. Et Microsoft déteste ça. Donc, ils sont en train d'aller les voir et de leur promettre là aussi toutes les misères du monde. Et vas-y, que je te propose de te casser les genoux, de t'invoquer rebelote des avocats, des brevets logiciels, de te faire payer des licences bien plus chères que si tu avais pris mes Microsoft et mes Windows. On va voir, j'espère bien que les constructeurs vont résister et vont un peu se tenir face à ça.
Alors, partie est serrée pour Microsoft parce que sur tout ce qui est smartphone, Windows 7 est complètement absent. Ils sont vraiment très loin derrière et ils ont du retard à rattraper.
Oui, et donc là, mais bon, ils essayent d'avancer et en l'occurrence, bah, ils jouent toutes leurs cartes disponibles. Il n'y a rien de tel. Quand vous êtes en retard, quand vous n'avez rien à proposer, vous invoquez les tribunaux, ça peut toujours marcher. En tout cas, c'est ce qu'essayent toutes les grosses boîtes qui n'y arrivent plus.
Alors, dans le même temps, c'est une nouvelle, je crois, qui date d'aujourd'hui. Steve Ballmer a revendu une bonne partie de ses actions Microsoft en disant « Ah non, mais en fait, c'est pour me faire changer de tranche fiscale, tout ça ». Mais ça aide pas la confiance parce que Microsoft commence à avoir un peu être un peu sur le grill.
Oui, donc bah tout ce que j'espère c'est que bah, ils vont développer de plus en plus en logiciel libre. Et oui, c'est assez bizarre, mais après tout pourquoi pas. Il y a quelques années, ils avaient dit qu'ils étaient ennemis fondamentalement de toute cette philosophie, toute cette éthique. Mais aujourd'hui, ils commencent à tourner un petit peu. Ils font des saloperies, mais ils font des choses bien par ailleurs. On peut toujours espérer.
Merci Manu et à la semaine prochaine.
Merci Luc, à la semaine prochaine.
Merci à Luc Fievé et à Emmanuel Charpentier pour cette revue de presse. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. Une revue de presse que l'on retrouve aussi sur le site de dogmazic.net si vous cherchez revue de presse April. Voilà. Avant de passer à la capsule de nos amis québécois de Sekaya sur les standards du web, je vous propose d'agrémenter et de respirer avec une petite pause musicale par David TMX. De la musique en Creative Commons NCSA 3.0. Greffa di uno va traci la bonne pedon dans la berouette. Greffa di uno va traci la bonne pedon dans la berouette. Écoute bien, star, moi je suis pas un breton. Elle monte Saint-Michel, c'est pas dans l'Aveyron. Écoute bien, star, moi je suis pas un breton. C'est pas le chouchène qui m'a fait pousser, mais c'est bien le calvin normand qui est bon pour moi. C'est pas le chouchène qui m'a fait pousser, mais c'est bien le calvin normand qui est bon pour moi. Grévin Dieu nous va tracher. Chouchène qui m'a fait pousser, mais bien le calvin normand qui est bon pour moi. C'est pas le chouchène qui m'a fait pousser, mais c'est bien le calvin normand. Écoute bien, Star, moi je suis pas breton. Et mon Saint-Michel, c'est pas dans l'Aveyron. Où tous les bretons de malheur se sont des innocents. Des bredins, Star, ma gosse sont si méchants. Où tous les bretons de malheur se sont des innocents. Des bredins de malheur, ma gosse sont si méchants. David de TMX en Creative Commons by NCSA 3.0 que l'on peut retrouver sur http://www.davidtmx.com. Vous êtes toujours sur Divergence Numérique 93.9 sur Divergence FM et sur Radio Escapade 103.3, 104.1. Maintenant, passons à la capsule de nos amis québécois de CKIA, de la Voix du Libre, lavoixdulibre.info, qui va nous parler du standard du web.
Les pages web qui s'affichent sur nos écrans sont en fait une interprétation des codes reçus par notre navigateur web. Ce qui se passe, c'est que le navigateur reçoit plein de codes, HTML, CSS, XML, JavaScript, il les analyse et à partir de cela, il produit un document mis en page qu'il affiche à l'écran. C'est donc le navigateur qui décide comment afficher la page. Malheureusement, chaque navigateur n'interprète pas nécessairement les codes de la même façon. Un consortium international, le W3C, a été créé en 1994 pour proposer les standards de tous les langages du web qui décrivent la syntaxe de tous ces langages et comment les navigateurs doivent les interpréter. Même si ces spécifications sont très précises, elles n'étaient pas toujours du goût des éditeurs de logiciels. Chaque fabricant de navigateurs web a donc ajouté des petites spécificités utiles, mais incompatibles avec les autres navigateurs, et a interprété assez librement les standards du W3C. Ça pouvait encore passer il y a quelques années quand il n'y avait que deux navigateurs concurrents, mais maintenant qu'ils sont cinq à se partager le web, ça devient compliqué de les mettre d'accord. Le respect des normes devient donc primordial. Ces spécifications web ont d'autres utilités, comme par exemple de pouvoir s'assurer que les pages peuvent être vues par des utilisateurs handicapés qui utilisent un matériel ou des affichages inhabituels. Le respect des normes permet de s'assurer que les pages pourront être lues ou entendues par tous les internautes. D'ailleurs, voyons si le site web de la Voix du Libre respecte les normes du W3C. Oula, 27 non-conformités rien que pour la page d'accueil. Yannick a encore du travail avant de toucher sa paye ce mois-ci.
Merci à nos amis québécois pour cette capsule que vous retrouvez sur, sur leur site, hein, lavoixdulibre.info. Maintenant, on place à l'accessibilité au logiciel libre avec Harmonie Altinier, Christelle Thomas, Sébastien Delorme. Un extrait de l'émission Symbiose qui passe sur les ondes de Radio Libertaire 89.4 à Paris.
Donc Harmonie, si tu veux commencer.
Oui, donc bonjour, je m'appelle Harmonie Altinier et je suis spécialisée dans l'accessibilité du web, plus spécialement, et j'anime un groupe de travail au sein de l'April qui s'appelle Accessibilité et logiciel libre, ça tombe bien. Et donc on a créé ce groupe de travail en décembre dernier, le 3 décembre exactement, et voilà, donc... voilà, il y a des petits messages qui passent, donc je suis un peu perturbée. Mais je me présenterai peut-être plus dans le cours de dans le fil de la discussion.
D'accord, très bien.
Christelle Thomas, bonjour. Moi, j'ai rien à voir particulièrement avec l'accessibilité, à part que je fais partie du groupe Accessibilité de l'April. Autrement, je ne suis pas du tout professionnelle dans le sujet.
Et c'est tant mieux.
Voilà.
Et donc, moi, Sébastien Delorme, je suis expert en accessibilité au sein d'une société privée qui fait du conseil en accessibilité numérique et en prise en compte du handicap. Je connais un peu moins le milieu du logiciel libre. Au quotidien, principalement, j'accompagne et j'aide des entreprises à s'intéresser à l'accessibilité numérique. Comment ça se prend en compte, qui ça va concerner, comment on le met en œuvre, etc., etc.
D'accord. Donc, et moi, c'est Emmanuel Charpentier, hein, informaticien de mon état et adhérent du monde du libre depuis une dizaine d'années. Ça fait pas de mal de se représenter un petit peu. Donc, pour commencer, déjà, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité? C'est un grand mot, c'est un long mot. À quoi ça correspond et qui est-ce que ça touche? Harmonie, peut-être, hein.
Alors, l'accessibilité, c'est une bonne question. Il faut déjà commencer par le définir. Il y a deux définitions qui sont généralement connues. Il y a l'accessibilité au sens d'universalité, mais qui n'est pas vraiment le sujet qu'on traite, en tout cas au sein du groupe de travail April, qui est rendre alors le web, mais c'est valable pour le numérique de manière générale, accessible à tous, quelle que soit sa langue, sa culture, son infrastructure réseau, etc., et son handicap physique ou mental. Et puis, à partir de là, il y a une définition plus précise qui a été mise en place par l'initiative pour l'accessibilité du web au sein du W3C, qui est un consortium qui régit les standards de l'accessibilité, enfin les standards du web de manière générale, et qui eux ont défini ça de manière plus précisément pour les personnes en situation de handicap. Et donc il y a tout un tas de normes après qui sont mises en place et qui sont pour pour rendre les sites web accessibles aux personnes handicapées, mais qui sont applicables aussi plus largement pour les logiciels, et donc il y a pas mal de choses qui sont faites dans ce sens-là.
D'accord. Toi, Christelle, c'est quoi pour toi l'accessibilité ?
Pour moi, l'accessibilité, c'est la possibilité de rendre, surtout les informations, quand on parle de web, les informations accessibles, que tout le monde puisse en profiter. Qu'en fin de compte, une personne ne soit pas bloquée par un site internet pour avoir le contenu de ce site internet, ne soit pas bloquée dans son utilisation sur un ordinateur parce qu'il y a un logiciel qui fait qu'il ne peut pas s'en servir. Voilà, qu'en fin de compte, on puisse se servir de tout.
Ouais, et puis juste pour reprendre un petit peu ce qu'Harmony a déjà précisé, moi j'ai l'habitude de parler d'accessibilité, quand je parle d'accessibilité, de le généraliser à l'accessibilité au sens large. On entend souvent parler de l'accessibilité de l'aménagement urbain, des routes, des trottoirs, des portes dans les bâtiments. Donc sur le numérique, c'est à peu près la même chose. On a des normes, comme on a des normes pour les largeurs de portes, pour que les gens, par exemple, en fauteuil puissent facilement passer. On a des trottoirs bateaux dans les rues, pour que les gens en fauteuil puissent traverser sans avoir à sauter ni à passer une marche. C'est quelque chose qui est, on va dire, nécessaire pour eux, pour pouvoir circuler au quotidien dans la rue. Et c'est quelque chose qui est un confort pour d'autres. Quand on a une poussette et qu'on se promène dans la rue, on est aussi, on trouve ça agréable d'avoir des trottoirs bateaux. L'accessibilité numérique, ça va être la même chose. C'est indispensable pour certains d'entre nous, les gens qui sont malvoyants, les gens qui sont sourds. Ça va être aussi un confort pour beaucoup d'entre nous, par contre. Le fait d'avoir, par exemple, des sous-titres sur une vidéo, si on regarde une vidéo en anglais, nous, francophones, on a souvent plus de facilité quand on a la version écrite en dessous. C'est un confort pour tous, et c'est vraiment une nécessité par contre pour certains.
Ça veut dire que, enfin là, dans ce longtemps, moi ça ne me concerne pas plus que ça en fait. Moi je suis bien portant, j'ai mes deux jambes, mes deux yeux.
Au contraire, ça concerne tout le monde ce que vient de dire, c'est ce que vient de préciser Sébastien. Mais l'accessibilité, ce n'est pas dédié à des experts ou à des personnes en situation de handicap uniquement. Ces règles ont été faites parce que c'est indispensable pour ces personnes-là, mais ça profite à tout le monde. Il faut savoir déjà que c'est une composante de qualité. C'est-à-dire que si on fait, alors c'est pas parce qu'on fait un site accessible qui sera forcément de qualité, ou un outil accessible qui sera forcément de qualité, mais s'il n'est pas accessible, il ne sera pas de qualité. Donc voilà, il y a des critères au niveau de l'accessibilité qui font, enfin qui améliorent aussi globalement la qualité. L'accessibilité, c'est penser son site. Bon, je prends l'exemple du web pour ses utilisateurs.
Oui, il faut avouer que le web, ça va être un des
sujets. C'est plus facile.
Les plus importants.
C'est un peu un biais que j'ai, mais c'est valable pour tout. Mais c'est parce que voilà, c'est des formations professionnelles. Mais l'accessibilité, c'est en fait prendre en compte ses utilisateurs, dont certains sont en situation de handicap. Quand on se met dans cette démarche-là, on se met dans une démarche ergonomique. Enfin, c'est aussi la démarche, c'est la même. C'est penser son site ou son outil pour ses utilisateurs, pour que ce soit plus facile pour eux d'y accéder, tout simplement.
Quelque part, ça veut dire que l'accessibilité, ça va concerner, je sais pas, ma mère, par exemple, pour accéder aux logiciels que je fais et qui sont souvent mal compris, un petit peu difficiles d'accès, peut-être.
Exactement. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, sans tout respect pour ta mère, mais avec les personnes âgées, avec l'âge, le handicap aussi touche de plus en plus de personnes, sans pour autant qu'elles soient handicapées. Il y a une étude, l'enquête, je ne sais plus, vie sociale de l'INSEE, qui dit qu'une personne qui a été publiée en août 2009, et une personne sur cinq considère avoir des difficultés dans la vie quotidienne. Une personne sur dix se considère en situation de handicap. Donc, en fait, ça touche beaucoup de monde. Rien que dans le Val d'Oise, il y a 80 000 sourds. Donc c'est pas du tout un épiphénomène. C'est, et puis ça peut arriver. En plus, on parle la nouvelle définition. Donc c'est la loi 2005 qui a instauré. C'est une grande loi sur le handicap et il y a qu'un article qui concerne l'accessibilité numérique dedans, l'article 47. Donc cette loi du 11 février 2005, elle instaure en fait la définition de situation de handicap. Et ça c'est très intéressant parce qu'on peut tous être en situation de handicap à un moment ou à un autre. Je me foule le poignet. Je suis sur mon ordinateur, bah, je ne peux pas utiliser la souris. Bon, c'est quand même pratique de naviguer au clavier. Bah, pour ça, encore faut-il que les outils étaient conçus pour que ça marche. Donc tu vois, ça peut te concerner à toi aussi.
Effectivement, j'ai souvenir de m'être luxé une épaule et d'avoir eu des difficultés. Mais bon, ça me paraît quand même, ça me paraît un peu restreint. Je ne sais pas, c'est du politiquement correct, c'est du sous-boudrage parfois, non?
Quand on fait un site internet, on vérifie souvent qu'il soit accessible pour plusieurs navigateurs. On pense à ceux qui sont sur Firefox, sur Internet Explorer, sur Escape, peu importe. Pourquoi ne pas vérifier aussi qu'il soit accessible aux personnes qui vont faire tout avec des liens, donc avec Lynx, c'est ça?
Oui.
Le navigateur en mode texte. On le fait déjà pour la plupart des personnes qui sont bien portantes, on va dire, entre parenthèses. Pourquoi ne pas élargir un tout petit peu notre...
Au-delà de ça, je vais être politiquement pas correcte, mais ça te pose problème de prendre en compte les personnes handicapées? Enfin, je veux dire, pourquoi c'est des gens comme nous, quoi? Enfin, pourquoi on penserait de notre cible, quand on fait un outil, que ce soit un outil logiciel libre ou un site web, on le fait pour une personne. Cette personne-là, ben, ça peut être une cible, je sais pas, les jeunes. Ben, parmi ces jeunes, il y a aussi des personnes handicapées. Pourquoi les oublier? Donc, si c'est d'un point de vue commercial, ben, on se prive d'une grande partie de gens. Si c'est d'un point de vue humain, tout simplement aussi. Enfin, pourquoi ne pas en prendre en compte? Et puis, encore une fois, les personnes âgées, il y en a de plus en plus. Et avec l'âge, les limitations sont grandissantes. Donc, ça touche tout le monde.
Vous allez me parler de solidarité, d'égalité?
Même sans parler de ça, quand on fait un contenu, par exemple, sur Internet, on le fait pour qu'il soit publié. Ouais, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui le voient. On le fait rarement pour soi. Pourquoi s'enlever une grosse partie de la population? Parce que, on n'a pas voulu réfléchir deux minutes à ce que ce soit la navigation se fasse facilement au clavier, parce que chaque image sera détaillée. Quand on fait un site internet que de photos, par exemple, si on met les photos telles quelles, les gens ils vont dire « Ouais, bon, je sais pas trop pourquoi tu as pris la photo. C'était sûrement intéressant, ça t'a sûrement parlé, mais moi, ça me parle pas. » Si en dessous, on dit « Ben voilà, moi, quand j'ai vu cette photo, ça m'a fait penser à ça. Il y a cet élément dans la photo qui me paraît intéressant et tout ça. » Déjà, une personne voyante, quand elle va la voir, elle va faire « Ah ouais, effectivement, cette photo, elle est intéressante. » Et la personne qui sera malvoyante, même si elle ne voit pas la photo, elle va comprendre pourquoi on a fait cette photo et ça va donner du contenu au site qu'on a fait.
D'accord, effectivement. Oui, ça, c'est les petits captions, les petits résumés qu'on va retrouver dans les photos, qu'on peut mettre sous forme de alt en HTML, des choses de ce
type-là. Je croyais qu'on ne devait pas utiliser l'acronyme.
Effectivement, mais là...
C'est-à-dire des alternatives textuelles qu'on peut mettre dans le code pour effectivement remplacer un contenu non textuel. Donc visuel, une image, une vidéo. Donc il y a des tas de choses au niveau technique, effectivement, mais...
Et en plus, c'est tout simple à faire. Ouais, à mettre en place, ça demande pas de compétences particulières.
Alors, il y a plein de choses qui sont très simples. D'un point de vue commercial, alors là, peut-être Sébastien pourra nous dire aussi comment il vend ça auprès des entreprises, mais d'un point de vue commercial, moi, quelque chose que je vends aussi très bien, c'est que c'est beaucoup plus facile à maintenir. Si on utilise tous des standards et qu'on fait les choses correctement, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est un investissement peut-être au départ, mais c'est plus facile à maintenir dans le temps parce qu'on a utilisé tous les mêmes standards. Donc, on revient aussi, pour moi... quand on a créé ce groupe Accessibilité Logiciel Libre, c'était justement parce qu'il y avait aussi un lien entre les deux. Des standards ouverts, ça me paraît indispensable pour une accessibilité réelle pour tous.
Pendant les nouvelles du Libre, tout à l'heure, on a parlé de Flash. Je pense qu'il est temps de mettre le sujet sur le tapis.
Non.
C'est marrant. On n'arrête pas de m'en parler en ce moment. Mais
C'est le sujet du jour. On en a, moi aussi qui regarde beaucoup les news, j'avoue que ça transparaît un peu partout. Et en tant qu'informaticien, le flash m'embête beaucoup depuis des années. Mais bon, là, c'est d'un point de vue technique. Je ne peux pas utiliser d'outils texte, hein, parce que je travaille souvent en mode texte, hein, et là, un Lynx, un W3M, qui sont, bon, alors là, des petits outils antidéluviens, mais ne fonctionnent pas du tout avec Flash, en l'occurrence.
Exactement. Alors, Flash, ça permet de faire des sites super dynamique, c'est hyper joli, c'est voilà tout ça.
Quand
c'est
ça bien sert fait, à forcément. Rien, Flash. Mais aujourd'hui.
Ah, ouais. Moi, on m'a montré un très joli petit jeu il y a pas longtemps. Vous savez les petits jeux qu'on utilise au travail pour passer le temps et qui ont l'air quand même professionnels. Comment vous pouvez, je sais pas, enfin c'est indispensable.
Pour certaines choses, Flash reste indispensable. Enfin, ça me paraît, voilà. Mais de moins en moins. Et on peut rendre Flash accessible, enfin, si on a besoin pour un lecteur vidéo, par exemple. Enfin, moi, je ne sais pas faire sans. Il y a effectivement HTML5, mais ce n'est pas encore
donc ça,
vraiment
c'est la,
sorti.
Voilà. Ça, c'est la dernière voilà. norme d'HTML qui est en train de sortir. Et
qui
fait parler d'elle
en train de sortir depuis longtemps. Mais je ne sais pas quand elle sortira. Mais bon, qui, est pas en, enfin, qui sera un casse-tête, je pense, au niveau accessibilité aussi. Donc il y a des choses qu'on peut pas faire sans Flash. Après faire un site tout en Flash, ce sera absolument pas accessible. Enfin si on le fait entièrement en Flash, ou alors faut une version alternative en HTML. Donc ça a aucun sens. Enfin c'est beaucoup plus cher, etc. Après il y a des moyens de rendre Flash accessible effectivement. Mais dans une démarche réelle d'accessibilité, on peut pas faire un site tout en Flash. Alors ça a pas de sens. Et sachant que tu disais que toi, quand tu es en mode texte, ben, tu n'as pas accès au site en Flash. Oui, logique. Bon, les personnes qui n'ont pas accès au visuel, ben, ce sera la même chose. Mais l'aveugle le plus célèbre du monde s'appelle Google. Puisque les moteurs de recherche, eux, ils indexent les mots. Ils indexent. Donc, au niveau référencement, ça a aussi une portée de penser son site accessible. Et là, je sens que ça t'intéresse davantage.
Tout à fait. Et donc, en entreprise, oui, je sais pas, mais Flash est quand même indispensable pour faire des choses jolies, des petits détails, le pixel près, les choses comme ça. Je me tourne à toi, Sébastien, parce que je pense peut-être que tu as rencontré ces cas-là dans ton milieu.
Ouais, on rencontre souvent ce cas-là. Flash, on peut le rendre accessible. Enfin après il y a des limites d'utilisation, donc c'est vrai que si on fait un site complet en Flash, comme le dit Harmonie, de toute façon on va avoir des limites techniques qui font qu'on ne peut pas rendre un site Flash accessible. Donc là c'est quelque chose qu'on présente aux clients. Enfin moi les gens avec qui je travaille sont des personnes qui sont intéressées par l'accessibilité, donc c'est un argument qui marche bien pour limiter justement les sites en full Flash. Après si c'est des usages assez ponctuels pour des animations, pour des lecteurs vidéo, pour des jeux, on peut très très bien rendre des petits jeux vidéo accessibles. J'avais vu il y a pas très très longtemps, c'est un petit jeu américain où on clique sur des cartes, elles se retournent et puis quand on a deux cartes identiques, elles restent découvertes. Un petit jeu comme ça qui était complètement accessible, donc quelqu'un qui était non voyant pouvait y jouer parce qu'il était vocalisé, quelqu'un qui était malvoyant aussi parce qu'on peut changer les couleurs, etc., etc.
Effectivement, mais malgré tout, enfin, c'est comme un petit peu le combat des navigateurs. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps, on oubliait les autres navigateurs autres que Internet Explorer. Parce que, voilà, vous comprenez, 20% de la population, on va pas dépenser de l'argent pour ces 20% de la population qui sont pas nos clients, vu qu'à la base, on ne fait rien pour eux.
L'impression que j'ai, c'est que ça change. Alors, j'ai aussi ma société, donc je vois aussi au niveau privé des gens qui, pour le coup, sont pas du tout intéressés à la base par l'accessibilité. Mais j'ai l'impression que il y a une prise de conscience aussi de la part des clients et de ceux qui font faire des sites, qui se sont peut-être fait avoir une fois ou deux, qui ont de plus en plus chez eux Firefox, au bureau, Internet Explorer, chez leurs voisins, ils sont sous Mac et Safari. Enfin, donc, du coup, ils ont plusieurs navigateurs et j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est juste mon impression personnelle, mais qu'il y a quand même un changement dans l'approche vis-à-vis du web et des outils.
Ça, c'est peut-être parce que, justement, il y a les navigateurs alternatifs qui sont en train de reprendre du poil de la bête, hein, de revenir sur le marché. Donc là, j'avoue que pour les standards et la standardisation du web, il n'y a rien de tel. Maintenant, effectivement. Peut-être passer une petite musique.
Hein. Oui, alors la musique du jour, c'est... donc. Un musicien qui fait de la musique clip de longue date, très prolifique, qui fait de la musique un petit peu lourde, qui s'appelle David Temix. J'ai fait une sélection des morceaux plus légers. Voilà, c'est assez rigolo, il y a de l'humour, etc. C'est sous licence Creative Commons NCSA. On le trouve sur Jamendo notamment. Vous tapez David Temix et ça se trouve sans problème. Voilà.
Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Pas.
m'arrive de faire quelques pieds de nez au code de la route, et même s'ils sont sans gravité, y'a toujours un képi qui rôde et que je vois trop tard. Y'a de cela quelques jours, je faisais mon taf de sécateur. Comme d'hab, j'étais à la bourre et presque en week-end de trappeur. Voyant le stop, je donne un petit coup d'œil à gauche. C'est là que j'ai joué au con, parce qu'à droite c'était moche. Deux agents de police venaient de me caler en flag, stoppant ma Clio bleue, me disent ton papier est pas blague. J'ai travailleur social, j'en appelle à votre indulgence.
M'en fous moi, peut-être pour une ambulance. 4 points, place que ça va vous coûter.
Je ne peux pas m'empêcher de lui préciser qu'il peut toujours y aller pour m'enlever mes 4 points, parce que je n'en ai plus que 2. Alors ah, c'est qu'il crétin. Pas de négoce possible, ce jeune trou du peut faire du zèle. Devant sa jeune collègue, putain, j'ai affaire à un dur. Soudain, avec un plomb et l'air au solennel, philosophe, il me dit
un stop, c'est comme un mur.
Ça fait moins 2, et moins 2 c'est moins que rien. Finalement, c'est peut-être moi le crétin, parce que sans mon permis, je vais devoir pointer. Voilà le TMX en retraite anticipée. Comme quoi la vie peut se jouer sur une seconde fâcheuse, un arrêt oublié et quelques boîtes flasheuses. La police aux aguets fait rentrer du pognon, mais l'État va me les redonner via les acédites dans mon con. Bref, avant de partir, je demande pardon.
Comme un mur. C'est comme un mur.
Nous avons donc une brochette de 3 invités pour parler accessibilité. Donc Manu, bah, à toi de jouer.
Donc je représente tout le monde, hein, rapidement. Harmonie Altigné, Christelle Thomas et Sébastien Delorme. Hein, donc nous discutions accessibilité et logiciel libre. Et pour le coup, bon, là ça me fait un petit peu mal au cœur, mais j'ai parfois entendu dire que le logiciel libre n'était pas super accessible par tout le monde, y compris bah, non seulement ma mère, mais plein de gens que je connais, des amis proches, qui me disent que c'est un peu trop compliqué, c'est difficile d'installer, ça prend trop de temps, c'est trop risqué. Qu'est-ce que vous leur répondez et qu'est-ce qu'il faut faire comme effort?
Il y a plusieurs points de réponse en fait dans la question. Tout ce qui est en fait difficulté d'installation, difficulté pour s'y retrouver, c'est plus de l'ergonomie en fait. La notion d'accessibilité, elle est vraiment plus technique. C'est est-ce que potentiellement on est capable d'utiliser un logiciel. Alors après, si un logiciel est inutilisable par tout le monde, on pourrait dire qu'il est accessible en fait. Il a le même niveau d'inutilisabilité par tout le monde. L'idée, c'est vraiment, on a un logiciel, on a des fonctions, il faut que tout le monde puisse les utiliser. Avec le, pas forcément le même degré de confort. Après, le fait de l'utiliser simplement ou avec facilité, de faire un outil intuitif, ça c'est plus de l'ergonomie. Après, sur les notions d'accessibilité même des logiciels libres, il y a effectivement certains, enfin, un petit peu comme ce qui est moins libre et commercial, il y a des degrés qui sont vraiment différents. Si je pense par exemple à OpenOffice, on a beaucoup de mauvais retours d'accessibilité sur OpenOffice. Avec Jaws. Sur certaines situations bien particulières. Donc, Jaws, c'est un lecteur d'écran. On n'en a pas parlé encore. C'est un système qui permet, propriétaire, effectivement, de lire les informations qui normalement sont restituées à l'écran, pour faire simple, et de le retourner sous forme vocale. Donc c'est une synthèse vocale qui est couplée à un lecteur d'écran, ou braille. Donc c'est les petites tablettes physiques qui viennent se mettre à côté du clavier pour pouvoir lire en braille ce qui est normalement affiché à l'écran. Donc Jaws, c'est quasiment, on va dire que c'est le lecteur d'écran le plus utilisé en France. Il y a un autre concurrent qui est propriétaire, et puis il y a une version qui est open source, autant en parler aussi, c'est NVDA, qui commence à être beaucoup utilisée par la communauté de personnes malvoyantes et non-voyantes.
NVDA, ça veut dire quelque chose en particulier ?
Sans doute.
Ça veut dire... le N, je ne sais plus, le V, c'est virtuel, le D, c'est desktop, et le A, c'est accessible. Ouais. Et donc Jaws est vraiment très très difficile à utiliser avec OpenOffice, à l'inverse de Word ou de la suite Office. J'avais eu un retour comme ça d'une personne qui travaille dans les services de la douane, où ils sont justement passés sur OpenOffice. Lui, à Jaws, il est encore obligé d'utiliser Microsoft Office, parce que il n'arrive pas à utiliser correctement la suite OpenOffice.
Et donc, il a des problèmes, il a des handicaps.
Il est non-voyant. Donc il utilise Jaws avec une synthèse vocale et il n'arrive pas à utiliser correctement OpenOffice. Donc c'est des problèmes qui sont vraiment techniques. C'est pas du tout lié à l'ergonomie du logiciel.
C'est aussi lié à la licence, enfin, et à la volonté de Jaws ou pas d'être accessible avec OpenOffice. Enfin, là, je mets un bémol. Ce que tu dis est vrai. OpenOffice peut être accessible. Par exemple, avec NVDA, qui est un logiciel libre, et ça, enfin, Sylvain Gris, qui est président du comité AVH, qui est l'association Valentin A8, qui est une association de personnes aveugles, dans l'heure, je crois, est totalement non-voyant et utilise NVDA et OpenOffice. Donc c'est possible, c'est accessible, il a fait des tutoriels là-dessus. Je suis pas en train de dire, je suis d'accord sur le fait de dire qu'un logiciel propriétaire ou un logiciel libre, au niveau de l'accessibilité, on retrouve un peu les mêmes problèmes. C'est-à-dire que bon, c'est pas un problème natif des logiciels libres, c'est pas vrai. C'est pas moins accessible ou les propriétaires sont plus accessible, c'est pas vrai. Il y a les mêmes problèmes et ça dépend. Là où je suis plus optimiste pour le libre, c'est que ben, par le fait que c'est libre et qu'il y a des communautés et de l'entraide et des évolutions d'une version à l'autre qui sont possibles, je suis assez optimiste sur l'évolution de l'accessibilité très rapidement dans le libre. Puisqu'il y a une mutualisation, contrairement par exemple au code source fermé de certains des logiciels propriétaires, où il n'y a pas d'amélioration possible en dehors de l'entreprise qui gère, qui édite le logiciel. Pour ce qui est des logiciels libres, il y a une mutualisation. Il y a des retours des utilisateurs et le groupe de travail, en l'occurrence de l'April, ça a aussi cet objectif. Et je pense que le succès de ce groupe de travail, qui a été quand même assez rapide et beaucoup de gens qui sont venus, c'est tout nouveau pourtant, montre qu'il y avait une vraie attente dans le libre, où il manquait en fait peut-être un endroit où se retrouver. Donc là, on se retrouve un peu sur la liste. Le but du groupe, c'est pas de faire les choses à la place, c'est pas de créer des logiciels accessibles, c'est plutôt de mettre en contact, de sensibiliser. Et il y a des choses. Alors il y a Christelle qui est là aussi pour Ubuntu.fr, mais il y a des choses qu'ils font et elle va pouvoir nous en parler. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a un vrai problème quand on dit que Jaws. Donc on parle de ça. Alors, juste pour préciser, l'accessibilité, c'est pas uniquement pour les non-voyants, contrairement à ce qu'on me dit parfois. C'est quelque chose dont on parle beaucoup parce que c'est assez ça illustre bien ce que c'est. Le problème, c'est que ce sont des technologies d'assistance, c'est comme ça qu'on appelle, les logiciels qu'on vient greffer pour suppléer à un handicap particulier. Donc là, en l'occurrence, Joe, c'est pour suppléer à la vue, qui va restituer. Ils sont remboursés, enfin, ils sont fournis par les maisons départementales des personnes handicapées, qui dépendent des conseils généraux. Et il se trouve qu'ils ne fournissent que ça. Donc évidemment, quand on a, c'est des logiciels qui sont vraiment pas faciles à utiliser, il y a un vrai apprentissage dessus. Donc quand on a un logiciel qui nous est payé avec l'argent public, la formation qui va avec qui nous est payée avec l'argent public, et qu'on connaît pas d'autres alternatives, nous on vient de perdre la vue, voilà, tout ce qu'on veut c'est pouvoir utiliser son logiciel, et il se trouve que JAWS ne marche qu'avec des logiciels Microsoft, ce que c'est étonnant. Évidemment, c'est très difficile pour le libre d'exister à côté. À côté de ça, il y a des logiciels donc qui existent comme NVDA sous l'environnement Microsoft Windows, mais Orca aussi sous Linux. GNOME.
Qui transforme du texte en son.
Voilà, c'est la même chose, c'est les équivalents, mais qui sont évidemment moins utilisés, donc peut-être aussi moins performants parce qu'il y a moins de retours, mais il y a un vrai potentiel, et je pense qu'à partir du moment où on arrivera peut-être aussi, ça c'est une des actions à venir que j'aimerais mener avec l'April à l'avenir, c'est de sensibiliser aussi les MDPH, donc les maisons départementales des personnes handicapées, pour leur dire, laissez le choix aux gens de choisir leur logiciel et de choisir leur formation, et voilà. Donc pour l'instant, il n'y a aucun choix qui est donné, donc c'est pas étonnant. Il y a un vrai monopole et c'est un vrai problème.
Moi, je dirais qu'un logiciel, c'est pas qu'il soit propriétaire ou libre, qui fait qu'il est accessible, c'est la volonté de la personne qui le conçoit. Si la personne qui le conçoit, elle s'en fiche complètement qu'il soit accessible, il peut être propriétaire ou libre, ça changera rien au problème. C'est vraiment comment il a été conçu, est-ce qu'on a pensé à le rendre accessible.
A priori, il y a un avantage au fait d'être libre, c'est que d'autres personnes pourront venir changer la recette de cuisine et pourront intervenir dans l'arrière-salle, faire des mises à jour, forquer, faire une production divergente de ce produit-là et le faire évoluer vers de l'accessibilité.
Ou faire une version divergente où la personne qui l'a conçu initialement se dit « Ah ben oui, effectivement, ça apporte que du plus à ce que j'ai prévu, je vais l'inclure dans le tronc principal. » Mais en fin de compte, oui, ça va être ça. C'est moi, je vais l'utiliser. Je me dis, c'est dommage. Je sais pas. J'ai une tante qui est aveugle. Elle peut pas l'utiliser alors qu'il est super ce logiciel. J'ai quelques connaissances. Je vais utiliser mes connaissances pour qu'elle puisse l'utiliser. Voilà. Alors que si c'est propriétaire, on va pas pouvoir dire. Je peux pas lire le code, donc je pourrais pas l'améliorer pour ma tante. Donc pour personne d'autre non plus, quoi. C'est l'avantage du logiciel libre, le fait que le code source soit libre.
Il y a des évolutions qui sont aussi vraiment très très rapides. On a parlé de NVDA et JAWS. Moi, j'avais testé NVDA il y a quelques années. C'était vraiment pas au point. C'était très peu utilisable. On pouvait vocaliser très très peu de choses. Aujourd'hui, on est arrivé à un produit qui est vraiment de bonne qualité. Moi, je le vois quotidiennement. Il y a beaucoup de gens qui commencent à l'utiliser. À l'inverse, JAWS, c'est effectivement une solution commerciale. Pour information, ça coûte à peu près 2 000 € une licence en France de JAWS, parce qu'on a aussi un distributeur, un monopole de distribution c'est assez fermé. 2 000 € qu'il faut mettre à jour à peu près tous les ans ou tous les 2 ans quand on a des nouvelles versions. Donc on a beaucoup d'utilisateurs qui sont sur des solutions commerciales, des vieilles versions aussi, donc avec moins de fonctionnalités. Qui ne pourront pas lire du flash, même s'il est accessible parce qu'ils ont une très vieille version de JAWS et parce que les mises à jour sont faramineuses. Là où le libre a vraiment un intérêt, c'est pour les utilisateurs qu'on voit avec NVDA, mais ça peut être avec d'autres types de produits aussi. Ça peut être la reconnaissance vocale pour pouvoir piloter l'ordinateur à la voix. Ça peut être des systèmes de pilotage au regard ou en bougeant le visage pour piloter une souris avec la webcam. La même chose, aujourd'hui, il y a des choses qui sont assez avancées dans l'open source et qui peuvent maintenant, dès aujourd'hui, être utilisées par beaucoup d'utilisateurs. Et les versions concurrentes commerciales sont excessivement chères. C'est la loi de l'offre et la demande aussi. Ça concerne pas forcément beaucoup d'utilisateurs, quoique. Et du coup, c'est des prix qui sont vraiment très très élevés.
Un autre avantage du libre pour l'accessibilité, c'est que le handicap, c'est alors il y a des grandes catégories qui sont handicap moteur, handicap visuel, auditif ou mental, cognitif.
Oui, ça correspond. Voilà. J'ai cru voir des logos avec 4 petites images, un œil, une oreille, un fauteuil.
Un visage un peu dédoublé pour tout ce qui est handicap mental ou cognitif. Dire que tous ceux qui seraient intéressés par le sujet peuvent rejoindre le groupe de travail accessibilité logiciel libre de l'April. C'est c'est un groupe de travail de l'April, mais ouvert aussi aux non-membres de l'April. C'est pas un groupe de travail technique, donc on peut parler de tous ces sujets. Et donc d'ailleurs, comme le disait Christelle, qui n'est pas du tout technicienne, participe très activement dans le groupe. Et donc pour ça, il suffit de rejoindre la liste de discussion accessibilité@april.org. Et on aura bientôt un portail libre-accessible.org. Voilà.
Merci à l'équipe de Symbiose en la personne d'Emmanuel Charpentier et de Luc Févier, les mêmes qui nous font la revue de presse de l'April. Cette émission que vous retrouvez donc sur les ondes de Radio Libertaire 89.4 FM à Paris et qui nous parlait donc d'accessibilité et de logiciels libres avec Harmonie Altinier, Christelle Thomas et Sébastien Delorme. Vous êtes toujours sur les ondes de Divergence Numérique, sur le 93.9 de Divergence FM à Montpellier et puis sur Radio Escapade 103.3, 104.1 pour nos amis du Gard et de l'Hérault, surtout des Hauts-Cantons, aussi sur divergence-fm.org. Merci à vous qui nous écoutez sur le net ou les ondes. Merci aussi à nos écouteurs ou nos auditeurs plutôt francophones de Belgique et du Québec. Nous terminons cette émission avec notre traditionnel agenda du libre, agendadulibre.org. Ce que l'on peut noter, c'est que le vendredi 12 novembre à Téran, à la médiathèque de Téran, Montpellier Libre et ses partenaires qui organisent donc de 16h à 18h un atel libre, place du Ballon à Téran, à la médiathèque, tous les vendredis, des ateliers d'initiation et de perfectionnement aux logiciels libres et systèmes d'exploitation libres, Linux, PAO, MAO, bureautique, traitement d'images, vidéo et montage son. Donc vous seront proposés donc de 16h à 17h l'atelier OpenShot Video Editor et de 17h à 18h atelier Audacity. Plus d'informations sur le site http://montpel-libre.fr. Ce que l'on peut noter aussi à Pessac pour nos amis bordelais à Libre Ouvert, découverte des environnements de bureaux, et puis à Forbach dans le 68 avec le Lug 68, les logiciels libres et Linux. On poursuit toujours. On peut noter à Castelnau-le-Lez le 16, ça c'est dans notre région, ça nous concerne, toujours des ateliers libres, toujours organisés par Montpellier Libre, au centre André Malraux, des ateliers destinés à répondre aux attentes du public dans le domaine de logiciels libres, Linux, systèmes alternatifs et bien autre chose tous les mardis. Donc découvrez et installez Linux, utilisation journalière, administration du système. Le contenu de l'atelier s'adapte aux problèmes des personnes présentes, possibilité de présentation d'un logiciel libre ou bien encore programmation sous LaTeX. LaTeX qui n'est pas du caoutchouc, mais un super éditeur de texte. Cet atelier aura lieu à la MJC du centre André Malraux, dit avenue de la Moutte, à Castelnau-le-Lez. On poursuit cet agenda du libre aussi à Toulouse, rencontre logiciel libre à Paris les 3e jeudi organisé par Parinux. Et puis le 19, rendez-vous régulier, toujours à Téran de la PAO MAO. À noter aussi le 20, samedi 20 à Toulouse, une Ubuntu Party 10.10. Voilà, merci à vous. C'est ainsi que se referme cette divergence numérique numéro 86. Je vous dis quant à moi à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons un spécial journée méditerranéenne du libre. Un des organisateurs nous en parlera dans le détail. Vous retrouvez tous les liens de l'émission sur divergence-fm.org, divergence numérique. Et puis le podcast arrive le lendemain. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour, à réécouter cette émission. Merci à vous. Merci de nous être fidèles. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Uh-oh.